Bonjour. Vous avez choisi un petit pasteur. Je dois encore prendre mes marques un petit peu à droite et à gauche. Vous m'excuserez si il y a des petites ratées. Mais en tout cas, faites-moi signe si vous ne m'entendez pas, parce que ça, c'est quand même important. Je vais vous faire un aveu pour commencer. Ce n'est pas toujours facile de discerner le texte ou le thème d'une prédication. Ce n'est pas toujours facile de discerner ce que le Seigneur a à cœur de transmettre à son Église, dimanche après dimanche. Parfois, c'est cadeau, c'est vraiment amené comme sur un plateau, mais d'autres fois, c'est une vraie lutte. Eh bien, ce matin, c'était cadeau, c'était offert. Alors, on est dans un moment propice, je dirais, pour ça, pour être inspiré. On est dans un changement de ministère pastoral, c'est-à-dire qu'on va entrer maintenant, on y est déjà un petit peu, dans une sorte de tension entre l'existant, ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours fait, nos habitudes, les miennes aussi, les vôtres, et puis ce qui est à venir. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on va être secoué ? Le petit nouveau, là, est-ce qu'il va respecter notre vécu, notre histoire ? Et puis, de l'autre côté, il y en a peut-être qui se disent « j'espère bien que non ». Si c'est pour continuer de la même manière, ce n'était pas la peine de changer. Depuis le temps que je veux faire bouger les lignes, j'espère bien qu'on ne va pas rester dans le statu quo. Et puis moi, je me retrouve là, au milieu, sans savoir exactement encore où j'ai mis les pieds, ni vous d'ailleurs vis-à-vis de moi, mais avec une grande envie de le découvrir grâce à vous, en vous rencontrant petit à petit, les uns après les autres. En tout cas, le texte que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin nous parle de cette tension entre ce qui a été et ce qui est à venir. Et il nous aide, je crois, à nous placer de façon juste dans une histoire qui nous a précédés et qui nous survivra sans doute, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Et se placer de façon juste dans l'histoire de l'Église, y compris de cette Église ici à Chambéry, c'est important. C'est important pour moi, j'arrive tout neuf dans une communauté que je ne connais pas encore très bien, mais à vrai dire, c'est aussi important pour vous. C'est important pour vous. Parce que cette histoire, elle n'est pas anecdotique. On n'est pas ici comme on pourrait être ailleurs. Cette histoire, c'est l'histoire de l'œuvre de Dieu ici, à Chambéry, dans cette église, dans cette communauté. Et nous avons tous besoin de savoir où est-ce qu'on se trouve dans cette histoire, dans la grande histoire de Dieu qui est, rappelons-le, le vrai et l'unique bâtisseur de l'église. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. On va aller au chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Donc, Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Vous trouvez ça après les psaumes, proverbes, etc. Vous arrivez à Ésaïe, chapitre 43, et je vais lire les versets 14 à 21. Ésaïe 43, versets 14 à 21. Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler tous ces fuyards, ces chaldéens, dans les vaisseaux de leur triomphe. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle le Seigneur, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée, de vaillants guerriers, tous ensemble. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe, ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est une parole vivante et qui parle à ton peuple de tous les siècles, ton peuple d'alors comme ton peuple d'aujourd'hui. Nous te prions d'ouvrir nos oreilles, notre entendement à ce que tu as à nous dire à nous ce matin. Amen. Ésaïe, c'est un prophète du royaume de Juda qui a vécu à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et à son époque, l'empire dominant, l'empire qui domine sur toute la région, c'est l'Assyrie, c'est l'empire assyrien. Et ici, Ésaïe prophétise la chute d'un autre empire, un empire qui n'est même pas dominant à ce moment-là, c'est l'empire babylonien. Alors vous connaissez peut-être les grandes lignes de l'histoire du peuple d'Israël, sinon je vais les retracer, je vais les brosser à grands traits, disons. En 930 avant Jésus-Christ, vous aviez le royaume unifié d'Israël qui a été divisé en deux suite à l'idolâtrie de Salomon. Donc juste après son règne, on se retrouve avec d'un côté le royaume d'Israël au nord qui aura Samarie pour capitale et puis de l'autre le royaume de Juda au sud avec Jérusalem pour capitale. Un peu plus tard, en 722, le royaume du Nord va chuter devant l'Empire assyrien, et puis encore un peu plus tard, l'Empire assyrien va chuter à son tour devant l'Empire babylonien, qui va en quelque sorte finir le travail de son prédécesseur en s'emparant en 585 du royaume du Sud. Et donc Jérusalem tombe aux mains de l'envahisseur, le temple est détruit, et Israël en tant que nation est rayé de la carte. Israël devient une province de l'Empire babylonien, empire qui, pour freiner toute envie de rébellion, va déporter une partie de la population à Babylone, en commençant par les cadres et les notables. Et c'est un désastre national, évidemment. Il n'y a plus de nation, Israël n'existe plus en tant que tel. C'est aussi un désastre spirituel, le temple a été détruit. Ce n'est pas le sujet que je vais aborder ici, mais on ne peut pas exagérer l'ampleur de ce désastre pour le peuple lui-même. Mais dans notre texte, ici, Ésaïe voit plus loin. Il voit que Babylone va chuter à son tour. « Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur », c'est le verset 14 qui le dit. Le Rédempteur, c'est celui qui nous rachète de l'esclavage. « Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. » Et ce quelqu'un, on sait qui c'est Cyrus. Ésaïe le nomme nommément, même au chapitre 45. C'est Cyrus, c'est l'empereur perse qui va écraser l'empire babylonien en 539 et qui va permettre aux juifs qui étaient exilés de revenir dans leur terre et de reconstruire le temple. Je les ferai couler tous ces fuyards, ces chaldéens, dans les vaisseaux de leur triomphe. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Qui est le Seigneur ? Qui est-il, ce Dieu Créateur d'Israël ? Eh bien, Ésaïe nous le rappelle après. Il est ce Dieu puissant, ce Dieu sauveur qui trace une route dans la mer, verset 16, et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers tous ensemble. Et pourquoi ? Pour qu'ils se couchent, qu'ils ne se relèvent plus. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Alors évidemment, Ésaïe rappelle ici au peuple ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait dans le passé. Il rappelle la grande épopée de la sortie d'Égypte, cette traversée de la mer Rouge, ce moment où Dieu a délivré le peuple du joug de l'Égypte qu'il avait réduit en esclavage, ce moment où le peuple s'est retrouvé poursuivi par l'armée égyptienne et qui a vu donc cette armée couler dans les eaux. Il leur rappelle tout ça, et juste après leur avoir rappelé ce passé-là, qu'est-ce qu'il leur dit ? Ne vous rappelez pas le passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. » C'est une petite parenthèse, mais quand Dieu agit pour son peuple, ça ne bénéficie pas qu'à son peuple. Quand la bénédiction descend sur le peuple de Dieu, ça bénéficie, ça a des effets collatéraux, on peut dire. Et là, s'il fait passer de l'eau dans le désert, le peuple peut boire, mais il n'y a pas que le peuple qui peut boire. Les animaux sauvages aussi, et tous rendent gloire au Seigneur. On peut se poser la question pour nous-mêmes de savoir de quelle façon les bénédictions, les grandes bénédictions, je crois qu'on en a une autour de nous, tout autour là, bénéficient aussi de manière collatérale à celles et ceux qui nous entourent. Mais c'est un autre sujet, parce qu'au-delà de ça, ce passage nous enseigne deux vérités essentielles, deux vérités, je crois, qu'il nous faut embrasser pour aller de l'avant de manière juste quant à l'histoire de notre Église. La première vérité, c'est que nous appartenons à une histoire. Nous appartenons à la grande histoire du peuple de Dieu. Qu'est-ce que fait Ésaïe ici ? Il rappelle au peuple la sortie d'Égypte. Il lui rappelle le récit épique de l'intervention divine. Parfois, on imagine le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, je ne sais pas comment vous vous le figurez, ce peuple, mais je crois qu'on se l'imagine parfois comme une réalité unique, une entité homogène. Il y a le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte, le peuple de Dieu qui entre en Canaan, puis on pense que c'est le même peuple. Alors oui, c'est le même peuple, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes, à part pour quelques-uns, dans l'exemple que j'ai donné. L'histoire qu'on lit dans l'Ancien Testament s'étale sur des dizaines de siècles. Et donc, il faut se rendre compte que Ésaïe s'adresse là à des gens qui, en fait, n'ont pas vécu eux-mêmes dans leur chair la sortie d'Égypte. Ils n'ont probablement jamais mis les pieds en Égypte. Ils n'ont pas personnellement connu Moïse, ils n'ont pas entendu les cris guerriers des Égyptiens qui les poursuivaient, ils n'ont pas vu de leurs yeux les eaux de la mer Rouge se séparaient en deux, ils n'ont pas vu comment elles se sont refermées sur leurs ennemis. Tout ça, ce n'est pas eux qui l'ont vécu, c'est leurs ancêtres. Mais, et c'est là que je veux en venir, c'est quand même leur histoire. C'est quand même leur histoire. C'est leur histoire à eux aussi, eux qui se trouvent confrontés non aux Égyptiens mais aux Babyloniens, eux qui vivent des siècles plus tard dans un contexte avec certaines similitudes, évidemment, mais quand même très différents, cette histoire-là les concerne. C'est leur histoire. Et c'est notre histoire aussi. Parce que c'est l'histoire du peuple de Dieu, duquel ils font partie, nous faisons partie, comme nos ancêtres. Et puis aussi parce que Dieu ne change pas. Et donc, ce que Dieu a fait, il le fera encore. Et c'est ce qu'annonce Ésaïe ici. Les Israélites qui ont fui l'Égypte étaient le peuple de Dieu. Les Juifs exilés à Babylone étaient le peuple de Dieu. Et nous, qui pour la plupart, j'imagine, sommes issus des nations païennes, nous avons été greffés à ce peuple, de sorte que nous sommes avec eux le peuple de Dieu. Et Dieu, dans la Bible, nous offre une narration, il nous offre une histoire. L'histoire de son peuple, l'histoire de sa relation avec son peuple, de la relation du peuple avec lui. Et il nous dit, ce que j'ai fait, je le ferai encore, parce que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Dieu qui bâtit l'Église. Il l'a bâtie non seulement au sens large, mais aussi au sens très très pratique et local. C'est lui qui bâtit l'Église évangélique baptiste de Chambéry. C'est lui. De telle manière que l'histoire de cette Église, c'est mon histoire. C'est notre histoire. L'immense majorité d'entre nous, j'imagine, n'étions pas là lorsque Paul Harbin s'est retrouvé avec la carotide tranchée alors qu'il travaillait sur le terrain qui plus tard deviendrait Cayenne. On n'était pas avec lui dans la voiture quand il a dit au Seigneur, « Si tu me sors de là, Seigneur, j'arrête de danser sur un seul pied, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. » Et le Seigneur l'a sauvé. Il a commencé à réunir quelques chrétiens. Ils ont trouvé une salle rue du Bon Pasteur, ça nous a été dit tout à l'heure. Il s'est fait baptiser dans cette salle avec son épouse. Ils ont mis leurs biens à disposition de l'Église. et ils ont eu un chœur pour les jeunes qui, paraît-il, faisaient venir Paul chaque dimanche avec un paquet de bonbons. Moi, je n'ai pas connu ça. Visiblement, vous avez connu ça. Est-ce que ça aurait un rapport avec le cœur que cette église a pour les jeunes ? On n'y était pas. Mais c'est notre histoire. C'est l'histoire du peuple de Dieu de l'église baptiste de Chambéry, une histoire que nous avons rejoint quand le Seigneur nous a conduits à nous assembler ici. J'étais pas là lorsque, comme un seul homme, vous avez décidé le projet de ce bâtiment, traversant un à un les défis qu'il a pu représenter. J'imagine qu'il y en a eu un paquet. Peut-être à commencer par le fait d'avoir à se réunir pendant plusieurs années dans un gymnase, ce qui, je crois, a été une bénédiction aussi pour beaucoup. Pour finalement, un beau jour, arriver dans ces locaux qui sont un outil incroyable, une bénédiction du Seigneur. J'étais pas là, mais maintenant, c'est mon histoire. C'est notre histoire collective. J'étais pas là lorsque les jeunes sont partis à Soul Survivor et qu'ils sont revenus transformés par la grâce de Dieu, mais là aussi, c'est mon histoire. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'œuvre de Dieu dans cette église. J'étais pas là lors de ce fameux culte de septembre 2015 où Étienne Linkowski, le pasteur de l'époque, a reçu du Seigneur de venir avec un surplus de serviettes un jour de baptême et où 4 personnes de plus que prévu se sont retrouvées à descendre dans le baptistère, sans parler de la douzaine qui a suivi dans l'année. J'étais pas là, mais c'est mon histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'œuvre de Dieu dans cette église. J'étais pas là quand vous avez été blessé, quand vous avez été meurtri par quelqu'un qui avait votre confiance, votre amitié. J'étais pas là, mais c'est mon histoire aussi. C'est notre histoire collective. Et j'étais pas là quand Samuel a travaillé dur pour structurer l'église, pour lui fournir le treillis qui permettrait à la vigne de s'étendre davantage, la vigne que vous êtes, de s'étendre davantage et dans de bonnes conditions. J'étais pas là, mais vous l'avez compris, je pense, maintenant, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Et ce qu'Ésaïe nous dit ici, c'est qu'il est important de connaître cette histoire. Il y a plein de moments dans l'Ancien Testament où Dieu dit « rappelez-vous, souvenez-vous », parce que l'Église est un corps vivant et qu'elle est l'œuvre de Dieu. Mais il ne dit pas que ça, Ésaïe. Il nous offre une deuxième vérité, et même si je vais l'aborder plus rapidement, elle est aussi importante que la première. Ce que Dieu a fait, il le fera encore, on l'a dit, mais il le fera autrement. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien, je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ésaïe vient juste de rappeler comment Dieu a séparé les eaux en deux pour que le peuple traverse à pied sec. Il y avait de l'eau qui faisait obstacle, et puis il n'y en a plus, on peut passer. Mais pour les Juifs écrasés par Babylone, il annonce que là où il n'y a pas d'eau, il va faire couler un fleuve. Dieu libère son peuple de l'esclavage. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Mais ça prend des formes diverses, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi, je crois, Ésaïe nous invite ici à laisser derrière nous l'âge d'or de notre Église. Non par résignation, mais parce que l'âge d'or avec le Seigneur, c'est toujours maintenant, c'est toujours aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Ce que Dieu a fait, il va le faire encore, à condition que nous ne nous laissions pas scléroser dans de vieux schémas, parce que l'Esprit souffle où il veut. Nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Nous devons donc nous laisser surprendre, nous devons oser être surpris. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui comme hier, Dieu intervient pour libérer son peuple. C'est toujours ce qu'il fait. Ce que nous savons également, c'est que le véritable esclavage, ce n'est pas en fait celui des Égyptiens, ce n'est pas celui des Babyloniens, c'est celui du péché par lequel Satan nous tient captifs nos contemporains. Mais Dieu, aujourd'hui comme hier, met un chemin dans le désert, il met des fleuves dans la terre aride, on connaît ce chemin. Le chemin, c'est Jésus. On connaît ce fleuve dans la terre aride, la source de vie, c'est Jésus. On l'a dit ce matin. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour notre péché. C'est lui qui nous libère. c'est lui qui est le seul à pouvoir nous libérer. Quant à l'art et à la manière, quant à sa façon toute personnelle de nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos intimités, eh bien, il suffit d'écouter les témoignages de ceux que le Seigneur a déjà sauvés, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'Esprit souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Seigneur ne se laisse pas mettre en boîte. Et en conséquence, nous avons besoin de discerner continuellement la direction de l'Esprit-Saint. Nous devons avoir l'œil, tous et chacun, pour voir où ça germe. Parce que ça germe, ne le savez-vous pas ? Ça germe. Et je crois que nous avons d'illustres prédécesseurs dans cette Église qui ont su être à l'écoute de Dieu et marcher dans les voies nouvelles qu'il ouvrait devant leurs pas. Et ils étaient faits du même bois que nous. Comme eux, nous pouvons nous aussi nous inscrire dans l'œuvre de Dieu pour cette ville, et Dieu qui est fidèle refera encore par des voies nouvelles ce qu'il a déjà fait par le passé. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre pour le chant suivant. Je vais vous inviter à prendre un chant.